Bonjour Olivier de Schutter.
Bonjour.
Deux navires de plus ont quitté hier matin les côtes ukrainiennes transportant des céréales, soja et maïs, en l'occurrence depuis la signature d'un accord entre l'Ukraine et la Russie sur les exportations de céréales. 10 cargos ont pu quitter les ports ukrainiens. Est-ce que le mécanisme mis en place par la Turquie et l'ONU fonctionne?
Oui, c'est évidemment un accord important et il est bon que les céréaliers puissent quitter les ports de la mer Noire. On avait entre 20 et 22 millions de tonnes de céréales qui étaient bloquées dans ces ports, dans l'impossibilité d'être exportées. Maintenant, il faudra beaucoup de temps pour que tous les entrepôts soient vidés. Chaque navire, c'est à peu près 25 000 tonnes de céréales. Et il y a donc plus de 800 navires qu'il faut faire circuler à travers la mer Noire pour que ces entrepôts puissent être progressivement vidés. Et en attendant, on ne sait pas très bien où stocker les récoltes qui sont faites aujourd'hui en Ukraine. Et donc le problème n'est pas complètement résolu.
L'Ukraine estimait qu'avec la mise en place de cet accord, ce serait 3 millions de tonnes de céréales qui pourraient être exportées chaque mois. Vous le disiez, 20 à 22 millions de tonnes étaient bloquées dans des silos depuis le début de la guerre. Donc si cet accord tient sur la longueur, il y a ceci également à prendre en compte, il va falloir 7 à 8 mois pour exporter les seuls stocks.
Oui, c'est ça. Et on a aujourd'hui des récoltes qui ont eu lieu pour le blé en Ukraine. Maintenant, c'est le maïs qu'on est en train de récolter. Et les agriculteurs d'Ukraine ne savent pas où entreposer leurs stocks, d'autant plus qu'une série d'entrepôts ont été détruits et que les infrastructures de stockage sont fortement endommagées dans tout le pays. Donc le problème n'est pas entièrement résolu. Et la conséquence, c'est que les exportations d'Ukraine vont tout de même baisser d'à peu près 40% en 2022 par rapport au montant atteint en 2021. Cela dit, au niveau mondial, ce n'est pas extraordinairement significatif. Vous savez, 20 millions de tonnes qui sont aujourd'hui en train d'être progressivement écoulées depuis l'Ukraine, c'est moins de 1% de la production mondiale. Et donc, c'est important psychologiquement, mais du point de vue des volumes, ce n'est pas très significatif sur les marchés mondiaux.
C'est un choc qu'on peut absorber, cette baisse de 40% finalement d'exportation en un an?
Oui, alors d'autres pays sont venus pallier en partie à l'impossibilité pour l'Ukraine d'exporter ses céréales. Et rappelons qu'un aspect important de l'accord négocié et signé le 22 juillet entre la Russie et l'Ukraine sous l'égide de la Turquie et des Nations Unies, c'est que les céréales de Russie vont pouvoir être exportées sans entrave, sans être entravées par les sanctions adoptées à l'égard de la Russie, et que la Russie va pouvoir exporter des engrais fertilisants, des engrais azotés, ce qui est extrêmement important pour garantir, je dirais, la production à l'avenir. Et donc, l'accord est un accord important non seulement parce qu'il permet à l'Ukraine d'exporter ses céréales, mais surtout parce qu'il libère les exportations très importantes, beaucoup plus importantes en volume, qui viennent de Russie.
Alors, ça fait une dizaine de jours que cet accord a été signé. Est-ce que sa mise en place se fait à un rythme satisfaisant?
L'accord est complexe, il suppose que toutes les parties coopèrent, il suppose aussi que les parties fassent confiance aux Nations Unies ainsi qu'à la Turquie qui inspectent les bateaux avant que les bateaux n'arrivent dans la mer Noire et après qu'ils quittent les ports de la mer Noire. Mais toutes les parties ont intérêt à ce que l'accord soit respecté, et notamment l'Ukraine a intérêt à pouvoir exporter et la Russie a intérêt à pouvoir elle-même exporter ses céréales et ses engrais, de manière à faire rentrer de l'argent pour financer la Russie. Donc, je crois que malgré le fait que ce soit encore des pays en guerre, il y a de bonnes chances pour que cet accord soit fidèlement respecté par l'ensemble des parties.
Depuis le début de la crise en Ukraine, les Nations Unies estiment que 345 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire grave. Cela représente une hausse de 25% en quelques mois uniquement. Ce chiffre traduit l'importance quand même que représentent l'Ukraine et la Russie en termes d'exportation de céréales.
Oui, c'est effectivement un chiffre dramatique. Alors, on a aujourd'hui à peu près 50 millions de personnes qui sont dans une situation de quasi-famine. Dans des pays comme l'Éthiopie, le Nigeria, le Sud-Soudan, le Yémen, l'Afghanistan, la Somalie, ce sont les points chauds. Mais on a aussi un nombre important de pays qui dépendent très fort des importations de Russie et d'Ukraine et où la hausse des prix affecte directement la population qui se trouve en état de malnutrition très sévère. Par exemple, dans des pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient. Il est significatif que le premier chargement depuis l'Ukraine soit allé au Liban, qui est un pays en grave crise sociale et politique, et où la population n'en peut plus par rapport maintenant à une hausse de prix. Et donc on a des impacts très significatifs dans ces pays qui dépendaient fortement des importations d'Ukraine et de Russie. La situation actuelle avec la mise en œuvre de l'accord du 22 juillet va légèrement alléger le fardeau sur ces pays, mais il faudra du temps pour revenir à la normale et l'essentiel de l'avenir va être déterminé par l'évolution des prix de l'énergie. Et on avait un baril du dollar du pétrole qui était à 130 dollars le baril il y a encore quelques mois. Cette hausse des prix de l'énergie expliquait largement la hausse des prix alimentaires. Le baril est aujourd'hui à 95 dollars. Et donc, c'est cette baisse des prix de l'énergie surtout qui explique que les marchés se rassurent. L'accord du 22 juillet est moins important que l'évolution des prix de l'énergie qui détermine finalement le coût de la production alimentaire.
Le déblocage de ces céréales n'est pas suffisant pour entièrement rassurer les marchés, les gouvernements aussi qui avaient pris parfois des mesures conservatrices, protectrices de leur propre production.
L'accord est important parce qu'il envoie un signal aux marchés qui, par conséquent, sont moins tentés de paniquer, de spéculer. Mais à moyen terme, dans les mois qui viennent, ce qui sera déterminant, c'est l'évolution des prix du pétrole et du gaz. Vous savez, notre production alimentaire dépend très fortement de l'utilisation d'engrais fabriqués à partir du gaz naturel, est très énergivore, et donc la hausse des prix de l'énergie expliquait pendant toute l'année 2021 la hausse des prix alimentaires. Et donc à moyen terme, au-delà de ce signal important qu'a envoyé le déblocage des ports de la mer Noire, à moyen terme, c'est vraiment l'évolution des prix d'énergie qui vont déterminer si des pays comme l'Égypte, le Liban, l'Éthiopie, l'Érythrée vont pouvoir importer à des prix abordables les denrées alimentaires qu'ils importent, notamment d'Ukraine et de Russie. Donc l'accord du 22 juillet est important, mais ce n'est pas à moyen terme ce qui sera déterminant.
Le 2 juin, le Tchad avait déclaré l'urgence alimentaire dans le pays, notamment sur fond de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quel mécanisme existe sur la scène internationale pour venir en aide aux populations vulnérables et aux pays qui lancent ce genre d'appel?
Écoutez, c'est scandaleux, mais on n'a aucun mécanisme qui oblige la communauté internationale à répondre immédiatement à ces appels à l'aide. Aujourd'hui, quand un pays est menacé de famine, les agences des Nations Unies lancent un appel aux donateurs. Il faut des semaines pour que les donateurs se réveillent et mettent de l'argent sur la table. Il faut ensuite répondre aux problèmes logistiques qui consistent à acheter des tonnes de céréales à acheminer vers le pays en question. Il faut organiser cet acheminement et finalement il faut 4-6 mois pour que l'appel d'urgence de la communauté internationale soit suivi d'une réponse. C'est tout à fait inacceptable. Il faudrait un mécanisme qui soit automatique et qui très rapidement donne au programme alimentaire mondial la possibilité de répondre et de venir au secours des populations. On n'a pas aujourd'hui un tel mécanisme. C'est un petit peu comme si on commençait à recruter des pompiers au moment où l'incendie se déclarait.
Merci beaucoup, Olivier de Schutter.